Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les instances représentatives patronales ont approuvé majoritairement la première mouture de la loi El Khomri, défendant donc un texte qu'ils estimaient nécessaire pour relancer l'emploi en France. Alors le patronat est-il trop libéral? Comme l'accusent les opposants à la loi travail, a-t-on vraiment besoin d'une réforme en profondeur du code du travail et notamment de cette inversion de la hiérarchie des normes dont tout le monde parle depuis quelques jours? Bonjour Véronique Descac.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT. Pouvez-vous nous dire ce que contient véritablement cet article 2 qu'aujourd'hui tout le monde commente?
Alors d'abord, dans la loi travail, il y a deux parties, deux grands principes. Le premier, c'est autour du compte personnel d'activité, des droits nouveaux pour les salariés, des droits attachés à la personne plutôt qu'au statut, ce qui permettra par exemple de protéger les travailleurs indépendants, les fameux salariés Uber, etc. Donc il y a toute cette partie-là qui est très riche. Et puis il y a une autre partie qui est reprise dans l'article 2, c'est, vous l'avez dit, un grand nombre de pages, parce que c'est le cœur du réacteur un petit peu de la conception du dialogue social tel qu'elle est proposée par la loi. Alors cet article 2, il dit: il y a un code du travail qui demeure, contrairement à ce qu'on entend dire sur un code du travail par entreprise. Le code du travail, il prévoit des principes, des grands principes qui protègent tous les salariés. Par exemple, les 35 heures sont maintenues et l'article 2 le dit, c'est ce qu'on appelle l'ordre public social. Cet article 2, il dit aussi, en matière de temps de travail, il y a tout un tas de choses qui peuvent être négociées dans l'entreprise. La modulation du temps de travail, les modalités de paiement des heures supplémentaires, etc. Le principe du paiement des heures supplémentaires, ça reste dans le code du temps de travail. Mais la façon dont on les rémunère, ça peut faire l'objet de la négociation. Donc il liste, c'est pour ça que c'est fastidieux à lire, tous les thèmes qui peuvent être négociés dans l'entreprise par accord majoritaire, ce qui est quand même une nouveauté par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut ou des organisations syndicales majoritaires dans l'entreprise qui valident ces accords, ou les salariés eux-mêmes par le référendum. Et puis cet article du Code du travail, il dit aussi qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de négociation, ou quand la négociation n'aboutit pas. Eh bien il dit, c'est le droit actuel qui s'applique. En d'autres termes, on n'est jamais obligé de négocier, on n'est jamais obligé de négocier le dos au mur, et le rapport de force, en quelque sorte, il appartient aux salariés. S'ils ne veulent que rien ne se passe dans leur entreprise, ils ont le choix de garder le code du travail comme il est aujourd'hui.
Alors, on entend évidemment dans vos propos, Véronique Descac, que la CFDT que vous représentez ici est favorable à cette loi. En revanche, les détracteurs de cette loi disent que ce fameux article 2 va mettre les salariés en position de sujétion parce que ceux-ci vont devoir négocier. Vous venez de dire le contraire, mais les détracteurs de cette loi disent que les salariés vont devoir négocier et que lorsqu'un salarié négocie face au patronat, eh bien, il est en position de faiblesse.
D'abord, ils ne doivent pas négocier, ils peuvent le faire. Ensuite, la négociation, elle ne se fait pas directement avec des salariés. C'est justement ce qui nous oppose au MEDEF, d'ailleurs. On les entendra tout à l'heure. Mais par l'intermédiaire de représentants du personnel qui, eux, sont protégés. Ils ont un statut protecteur, donc qui les empêche de subir des pressions. D'autre part, ce qui protège vraiment, je vais en quelque sorte de l'expliquer, c'est l'accord majoritaire. C'est-à-dire, on ne peut pas, au coin d'une table, comme c'était possible avant 2008, avec une organisation syndicale plus ou moins complaisante, signer un peu tout et n'importe quoi. Ce n'est plus possible aujourd'hui puisque ce sont les salariés, ou directement ou par l'intermédiaire de leur vote aux élections, qui décident ou pas de se voir appliquer un accord. Et puis troisièmement, ce qui protège beaucoup, c'est le fait que le droit supplétif, ce qu'on appelle le droit supplétif, c'est-à-dire que ce qui s'applique en l'absence d'accord, eh bien c'est ce qu'on a insisté pour remettre dans le texte de la loi, qui n'y était pas dans sa première version, c'est ce qu'on appelle le droit constant, c'est-à-dire le même code du travail qu'aujourd'hui.
Et c'est ce droit supplétif qui rend la lecture de cet article 2 assez pénible, parce que du coup, oui, en fait, il y a trois parties pour l'expliquer aux auditeurs. Il y a une partie qui est donc ce qui relève du national, une partie qui relève donc de ces fameuses négociations au niveau des entreprises, et puis le droit supplétif, d'où ma question, la CGT ment-elle lorsqu'elle dit que cette inversion des normes représente un véritable danger pour les salariés, ou bien est-ce que le texte est tellement opaque, tellement complexe qu'on peut avoir une bataille d'experts sur son interprétation?
On peut avoir une bataille d'experts, on peut le comprendre différemment. Oui, alors que la CGT mente dans un certain nombre de ses tracts, c'est indéniable. Ils sont même venus devant les locaux de la CFDT confédérale à Paris distribuer des tracts qui disaient n'importe quoi, qui disaient par exemple qu'étaient remis en cause les congés pour événements familiaux, ce qui est faux. Enfin, donc c'est vrai que dans la bataille de communication qui est là, il y a beaucoup de désinformation et je crois que le mot mensonge n'est pas exagéré. Après, il y a des gens qui pensent sincèrement que ce qu'ils appellent l'inversion de la hiérarchie des normes est une difficulté. Mais l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que la règle soit créée dans l'entreprise plutôt qu'au niveau national et en particulier dans la branche. Mais là, encore une fois, regardons la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2016, dans nos entreprises. Il y a 30 ans, ce qu'on négociait dans les entreprises, c'était du salaire essentiellement, des rémunérations. Donc quand on négocie une rémunération, on comprend bien que c'est mieux d'avoir plus dans l'entreprise que moins et que on peut mesurer facilement que 25 euros décidés par la branche, ça serait moins que 30 euros décidés par l'entreprise. Bon. Mais aujourd'hui, c'est plus seulement ça qu'on négocie dans les entreprises. On négocie de l'organisation du travail, on négocie de l'aménagement du temps de travail, on négocie des conditions diverses pour les salariés, des droits, par exemple, à des modes de garde, des choses comme ça. Le plus et le moins dans ces dispositifs-là, c'est quoi ? Qui peut le dire à part les salariés ? C'est pas la branche, encore moins la loi, qui va dire bah, « cette organisation-là du travail, je la trouve plus chouette ou moins chouette ». C'est les salariés et leurs représentants dans les entreprises qui en sont juges.
La question de la rémunération des heures supplémentaires, elle aussi pose problème, Véronique Descaques. Votre point de vue à ce sujet, vous qui êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT ?
C'est sûr, si on fait croire aux gens que demain matin, c'est le patron qui va choisir de payer les heures sup entre 10 et 25%, je comprends que ça inquiète, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que justement, si on ne fait rien, s'il n'y a pas d'accord, elles continueront à être payées à 25%. S'il y a un accord, ça pourra être moins, pas moins de 10. Mais s'il y a un accord, ça veut dire qu'il y aura eu des contreparties en face, qu'il va y avoir autre chose. Par exemple, j'ai un militant CFDT à Starbucks Café qui nous expliquait il y a encore quelques mois que, par exemple, lui, il avait réussi à obtenir de son patron que ce soit les salariés qui choisissent leur planning plutôt que de se le faire imposer par l'employeur, qu'ils aient des récupérations quand ils travaillent le dimanche ou le soir. On peut aussi demander, c'est ce qui existe dans les grands magasins, que par exemple on paye le taxi pour vous raccompagner quand vous terminez après 21h, ou qu'on paye la nourrice si vous devez faire garder vos enfants. Bon, est-ce que ça vaut pas le coup de négocier ces contreparties-là plutôt que de s'accrocher à 25 plutôt que 20% de paiement des heures supplémentaires ? Je ne sais pas, moi. Je ne porte pas de jugement sur ce que le salarié des Galeries Lafayette ou celui de Starbucks Café préférera. Donc je dis, faisons leur confiance et faisons confiance à leurs représentants et au fait que les militants CFDT, ils ont comme ambition d'être proches des salariés, proches de leurs préoccupations et de les représenter comme ça.
Depuis le début de cette négociation, depuis le début de ce conflit, on entend dire que le code du travail en France est particulièrement compliqué et aujourd'hui on se retrouve face à un texte, cette loi travail, qui elle aussi est formidablement compliquée, qui prévoit une législation sur les périodes d'inaction n'étant pas des périodes de congés, qui prévoit un certain nombre de congés spécifiques, tels que j'ai lu par exemple un chapitre consacré aux congés pour actions humanitaires. Donc on est vraiment dans des cas qui sont des cas extrêmement précis. Est-ce qu'on n'est pas en train de reconstruire une usine à gaz qui, du coup, ne satisfera ni le patronat, ni les salariés, Véronique Descaques ?
Non, mais c'est vrai que la thématique de la simplification, il faut s'en méfier parce que dans un monde qui est complexe, il n'y a aucune raison pour que le monde du travail ne soit pas complexe. Un salarié qui travaille dans une usine où on fabrique des voitures n'a pas forcément la même organisation du travail, la même contrainte, les mêmes besoins qu'une assistante maternelle qui travaille chez elle, ou qu'une salariée qui travaille dans le commerce dans un grand magasin, ou qu'un salarié qui travaille dans l'hôtellerie. Donc on ne peut pas imaginer qu'une seule règle, une seule organisation du travail puisse correspondre à tout le monde, à tous les besoins. Donc c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus besoin, c'est un mouvement, vous savez, qui est engagé depuis des décennies. Hein. La CFDT a coutume de dire depuis mai 68, quand Edmond Maire réclamait la décentralisation de la négociation dans les entreprises et la création de la section syndicale, on n'a pas cessé d'aller vers ce mouvement de renvoi d'une partie de la création des règles dans les entreprises? Eh bien oui, le monde il est complexe, donc il faut pour répondre à ça des dispositifs qui soient simples d'utilisation pour les salariés, peut-être complexes pour les acteurs qui les mettent en œuvre.
Ce qui veut dire que tout le monde ne peut pas s'improviser syndicaliste si on souhaite négocier du côté des salariés. Et là, c'est peut-être une pierre dans le jardin d'un certain nombre de candidats à la primaire républicain qui souhaitent voir plus d'individus hors des organisations syndicales classiques se présenter aux élections dès le premier tour de ces élections dans les entreprises. Est-ce que pour vous, il faut conserver un certain monopole des centrales syndicales traditionnelles, Véronique Descac, vous qui représentez la CFDT ici?
Oui, bien sûr, mais la présentation de dire il faut conserver un monopole, on a l'impression qu'on est assis sur un tas d'or dont on ne voudrait rien lâcher. C'est pas ça le sujet. Il faut permettre à celui qui négocie, premièrement, d'être formé, comme vous venez de le remarquer, d'avoir un minimum de compétences sur les choses qu'il a à faire, et puis surtout d'être libéré de ce lien hiérarchique. Et c'est ça qui fait que un représentant d'une organisation syndicale qui n'est rien d'autre qu'un salarié de l'entreprise, hein, c'est pas un espèce d'ovni qui arrive tout d'un coup dans une entreprise pour essayer de la mettre en mille morceaux, un représentant du personnel. C'est ça que peut-être un certain nombre de représentants d'entreprises n'ont pas compris. Un délégué syndical, c'est un salarié de l'entreprise qui a un mandat qui le protège et qui du coup le délie de son lien de subordination avec l'employeur. Et puis de surcroît, il est formé, il est accompagné par l'organisation syndicale, c'est ça qui lui permet de négocier de façon plus sûre pour les salariés qu'il représente.
Aujourd'hui, votre syndicat, la CFDT, Véronique Descac, veut que cette loi travail passe.
Oui, absolument, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de nouvelles garanties pour les salariés qui sont proposées dans cette loi. Je pense par exemple à la lutte contre les discriminations qui est renforcée, à la protection des salariés qui reviennent de congés maternité qui est prolongée, mais aussi à la lutte contre le travail illégal quand on sait ce que ça détruit comme entreprise et comme emploi dans notre pays, l'utilisation illégal, abusif du travail détaché. Moi, je dis que protéger les salariés comme les entreprises de cette concurrence déloyale, c'est indispensable. Mais aussi, il y a beaucoup de droits nouveaux, on a dit, la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes salariés. On dit, traditionnellement, la formation professionnelle, ça va plutôt à ceux qui sont déjà bien formés. Eh bien, dans cette loi, on se dit qu'on va faire le contraire. On va donner de la formation à ceux qui en ont jusqu'alors le moins.
Donc vous vous opposez à ceux qui disent à la fois que cette loi va mettre les négociations à un niveau finalement où les salariés vont être en position de sujétion, mais aussi à ceux qui estiment qu'aujourd'hui cette loi est finalement un texte creux et vide.
Ah bah c'est tout sauf creux. Je dirais même que le compte personnel d'activité, avec les contours qu'il a désormais, c'est-à-dire des droits qui vont aux salariés, aux agents de la fonction publique, aux travailleurs indépendants, à ceux des plateformes, etc., elle pose les bases véritablement du droit social du 21e siècle. J'ai déjà dit même que c'était probablement révolutionnaire comme approche. On n'attache plus des droits au statut des gens, aux insiders, comme le disent parfois les économistes, seulement parce qu'ils ont un statut, parce qu'ils sont agents de la fonction publique ou parce qu'ils travaillent comme moi dans un établissement bancaire, sont très protégés. On en attache à tout le monde, y compris à ceux qui, dans leur parcours, seront à un moment demandeurs d'emploi.
Aujourd'hui, le discours de la CFDT consiste à renvoyer à la CGT l'image d'un syndicat rétrograde.
Elle se le renvoie elle-même, elle n'a pas besoin de nous pour ça. Hein.
Quel jugement justement portez-vous sur des actions qui consistent par exemple à bloquer des dépôts pétroliers ou à bloquer des centrales nucléaires?
Pour moi, c'est la caractéristique d'une organisation en crise, tout le monde le sait, il suffit de lire la presse. C'est un aveu de faiblesse aussi, c'est-à-dire on n'a pas réussi à mobiliser massivement dans la rue, donc du coup on va utiliser le pouvoir du nuisance qu'on a encore dans certains endroits pour essayer de bloquer le pays. Le bloquer envers et contre des salariés, on nous le dit beaucoup hein, dans les raffineries comme dans les centrales nucléaires, des salariés qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'est en train de faire la CGT, qui portent des brassards pour protester ou qui demandent à adhérer à la CFDT pour être plus fort face à ces actions.
Vous pensez que cette loi va passer ?
Je souhaite qu'elle passe parce que ça serait dramatique pour le pays et pour ses salariés si elle devait être remise en cause. Dramatique parce qu'ils perdraient des droits et dramatique parce qu'on voit bien dans les programmes électoraux dont on commence à parler aujourd'hui que tout n'est pas très sympathique pour les salariés pour l'année prochaine.
Mais vous avez souvent négocié avec le gouvernement, vous pensez qu'ils vont tenir ?
En tout cas, j'espère qu'ils vont tenir. Je ne peux pas présager de la suite, je l'espère.
Merci Véronique Descac de nous avoir présenté le point de vue de la CFDT. Tout à l'heure, nous entendrons le point de vue du patronat de trois patrons venant d'origine et de métiers différents, de la PME à des start-up. Nous entendrons cela vers 8h15.